BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi une sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un mot de l'actualité du jour, suite du sommet du G7 à Évian et sur place. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial Hugo Babet. Alors aujourd'hui Hugo, on va parler intelligence artificielle avec la présence quand même du patron d'OpenAI, Sam Altman.
Oui, à midi, ça devrait commencer d'ici quelques minutes, à la fois les dirigeants du G7 autour de la table qui sont là depuis 3 jours, mais aussi des patrons de la tech, le patron d'OpenAI, comme vous venez de le dire, Sam Altman, mais aussi les patrons de Google DeepMind, d'Anthropic et le français Arthur Mensch de Mistral. L'objectif pour les dirigeants, c'est de montrer aux entreprises de la tech qu'ils veulent accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les sociétés et dans les économies européennes notamment, et la création possible d'un nouveau statut de partenaire, de trust partner, de partenaire de confiance. L'objectif, c'est bien de ne pas dépendre, de ne pas se faire dépasser par la concurrence chinoise en partageant certaines technologies entre les champions américains et les champions européens de l'intelligence artificielle. Et si ces partenariats fonctionnent, c'est parce que déjà le G7 s'est accordé sur les conflits internationaux, la guerre en Ukraine d'un côté où Donald Trump a donné des gages de soutien à l'Ukraine, et de l'autre côté, le Moyen-Orient. Cette fois, ce sont les Européens qui ont soutenu l'accord forgé par Donald Trump avec l'Iran, qui sera signé vendredi et qui devrait permettre une ouverture complète du détroit d'Ormuz dès ce vendredi.
Merci Hugo. Hugo Babet, donc depuis Évian, où se tient en ce moment même le sommet du G7, et puis à ce propos, ses dernières déclarations sur la réouverture du détroit d'Ormuz dès vendredi, on voit que ça pousse les prix du pétrole toujours un peu plus à la baisse. C'est le baril de Brent ce midi qui est autour des $79. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner, une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements et aujourd'hui exceptionnellement aussi de nos sinistres, parce qu'il y en a des sinistres dans nos logements et justement ce sera l'occasion d'en parler dans le cadre de notre pro de l'IMO du jour, parce qu'il y a des solutions. C'est compliqué de savoir quelles sont les responsabilités, notamment en cas de dégâts des eaux, puisque c'est les sinistres les plus courants dans nos logements. On va voir ça dans quelques instants, comment c'est intéressant de se faire épauler par des entreprises qui gèrent tout pour nous. Bah oui, ça existe. Ensuite, retour en plateau pour notre duo de choc de la fiscalité. Évidemment, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de la fiscalité. On a toujours des choses à dire, quand bien même notre projet de loi de finances pour 2027 n'a pas encore été présenté. Il y a toujours des sujets sur l'immobilier et la fiscalité. Allez, d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Michaël Casal, le fondateur de Wattio. Bonjour Michaël.
Bonjour.
Alors, je le disais, vous allez m'aider à régler mon dégât des eaux. C'est à peu près ça, l'idée.
Alors, on a tout à fait. J'ai cofondé Wattio, donc première plateforme collaborative de gestion de tous les sinistres immobiliers, et notamment le dégât des eaux, qui est le sinistre majeur. Plus de 80% des sinistres sont des dégâts des eaux, donc chronophage, compliqué, et on ne sait pas où on en est.
Mais surtout. Ouais, surtout, Michael, c'est ce que je disais en préambule, la difficulté, c'est de savoir qui est responsable. Alors, pour le coup, on l'a tous vécu. Est-ce que c'est mon voisin du dessus, celui encore du dessus, celui encore du dessus, ou pourquoi pas celui du dessous, par exemple?
Exactement. Et la partie commune aussi, et le syndic, et le bailleur, et qui est le propriétaire, et qui est le. Voilà, donc c'est compliqué, beaucoup de parties prenantes, beaucoup de règles, des conventions, et des impacts financiers, et des impacts de temps compliqués à gérer. Il faut suivre les délais. Donc, notre plateforme est là pour aider les différentes personnes et les parties prenantes à gérer tout
ça. Mais vous faites comment, justement? Vous le disiez, ça prend du temps et c'est ça le problème. Pour l'avoir vécu, mais je pense qu'on est très nombreux à l'avoir vécu, c'est à quel moment on stoppe déjà le dégât et après on répare et on va refaire la peinture, par exemple, ou d'autres éléments. Enfin, qu'est-ce que vous permettez de faire que moi, j'aurais pas réussi à faire toute seule dans mon coin?
Déjà, c'est d'avoir un workflow, un process bien compréhensible de toutes les étapes de la gestion du sinistre, parce qu'il y en a beaucoup. Quoi faire à quel moment, intégrer tout sur la plateforme, envoyer des mails, des rappels, des documents, en fait, avoir un seul outil pour tout centraliser de l'information et savoir vers qui se tourner. voilà, c'est d'avoir toutes les cartes en main pour tout gérer, éviter de se disperser avec du Excel, des mails, des notes, avoir tout sur une même plateforme, une web app accessible sur tout support, téléphone, tablette, ordinateur.
Mais du coup,
vous soyez en expertise.
Ouais, parce que moi, du coup, ma question, c'est à qui vous adressez? Est-ce que vous vous adressez à moi, locataire, à mon propriétaire bailleur? Est-ce que vous vous adressez, je sais pas, à des grosses structures? Je pense aux bailleurs sociaux, parce qu'il me semble que vous allez annoncer un partenariat précisément là-dessus, qui aura justement, lui, des milliers, voire des dizaines de milliers de locataires dont il doit assurer le suivi. À qui vous adressez?
Tout à fait. Nos partenaires et nos clients sont les professionnels de l'immobilier, les gestionnaires d'actifs. Qui sont les bailleurs sociaux, également les foncières, les property management et également à moindre échelle les syndics et les gestionnaires locatifs, ceux qui ont une gestion d'actifs et qui rencontrent malheureusement beaucoup de sinistres, notamment des dégâts des eaux. Et tout à fait, on a eu un très beau partenariat avec INI, donc INI de France, 52 000 logements. On a intégré leur incubateur, le INI Lab, en 2024. Et grâce à ça, on a co-construit notre plateforme Voitio et on a déployé chez eux, voilà, pour les aider dans la gestion du délai de traitement, pour améliorer la satisfaction de leurs locataires et également la satisfaction des collaborateurs avec un outil simple pour leur quotidien qui leur permet de tout gérer sur une seule plateforme.
Merci Mickaël pour votre témoignage. Mickaël Casals, fondateur de Voitio. Vous voyez, dans les experts de l'IMO sur BFM Business, on parle de tout, y compris de nos problèmes du quotidien et les dégâts des eaux et les sinistres en tout genre en font partie. Si comme Mickaël, vous avez un témoignage terrain à nous apporter, n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et Jean-Pascal Michaud, avocat fiscaliste chez LMD Avocat, est avec nous. Bonjour Jean-Pascal.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Et également à mes côtés, Stéphane Descartiers, SD Conseil et Formation. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marie.
Alors c'est vrai que quand je vous ai appelé et contacté hier, je disais, est-ce qu'il y a des trucs sur le projet de loi de finances pour 2027 dont on pourrait parler? Vous m'avez dit, bon, attendons. De toute façon, il ne sera pas voté avant quoi? Le printemps prochain, sait-on jamais. Bref, mais il y a d'autres sujets quand même à aborder. Alors il y a un truc qui m'a fait rire, parce qu'à chaque fois, je vous demande, c'est quoi vos sujets du moment? Et Jean-Pascal, il m'a dit, il y a le fisc qui est visiblement hyper tatillon en ce moment au sujet des ventes de résidences principales. Et pour cause, on rappelle, la plus-value sur la vente de la résidence principale était exonérée d'impôts. Et du coup, forcément, le fisc se dit quel dommage que c'est une résidence principale, que ce soit une résidence principale. Et il ne voit pas forcément une résidence principale là où les propriétaires en voient une. C'est à peu près ça l'idée.
Oui, c'est exactement ça, Marie. L'enjeu est important parce que c'est une des plus grosses exonérations fiscales qui existe en France pour les particuliers. Et quand on vend sa résidence principale, c'est quand même souvent avec une plus-value importante. Le taux d'imposition est conséquent. Donc les enjeux sont vraiment, vraiment importants. Et c'est quoi une résidence principale? C'est pas si clair. C'est pas si clair.
C'est pas là où je vis?
C'est là où on vit, mais parfois on ne vit pas toujours dans un seul endroit. On ne vit pas toujours seul. La personne avec qui on vit ne vit pas forcément là tout le temps.
Ça fait beaucoup de
conditions et puis on n'est pas forcément toujours en mesure de tout prouver. Donc l'administration fiscale, elle met de plus en plus souvent son nez dans les exonérations pour vente de résidence principale, d'autant plus que ce sont les notaires qui font les déclarations et qu'ils ne vérifient pas ce point-là. Si le particulier leur dit c'est ma résidence principale,
ils font OK.
Voilà, okay, on fait une exonération. Et l'administration, elle arrive souvent 2-3 ans plus tard en disant... Prouvez-moi tout ça.
2-3 ans plus tard, voilà. C'est pratique en plus.
Il faut savoir que quand on bénéficie d'un avantage fiscal, on a la charge de la preuve. Ce n'est pas à l'administration de prouver que ce n'est pas votre résidence principale.
C'est à vous de prouver que ça l'est.
Donc, elle va se contenter d'aller chercher quelques indices, de vous trouver une autre résidence, c'est le cas le plus souvent, le plus fréquent, et de dire, prouvez-moi que ce n'est pas cette autre résidence, et donc vous étiez bien en résidence principale. Et ce n'est pas simple. Et donc j'invite vraiment les gens à faire attention. On a des jurisprudences assez récentes qui sont tombées, qui vous disent par exemple que quand vous êtes copropriétaire, l'exonération elle est partielle, elle est que pour ceux qui sont dans la maison. Elle vous dit aussi que quand c'est une société qui détient la maison, il faut que ce soit une occupation à titre gratuit. Si c'était votre résidence principale, mais que vous versiez un loyer à la société, ça ne marche pas.
Oh là là.
Alors que c'était bien votre résidence principale et vous êtes bien propriétaire. Donc ça, c'est un piège classique. Il y a aussi la durée pendant laquelle on a vécu dans la maison, parce que souvent, les choses ne se passent pas comme on l'a prévu. On a des cas, par exemple, où on est en couple, on décide d'acheter une maison, on l'achète, on emménage, on se fâche, on se quitte... et on l'a occupé un mois, deux mois, trois mois, où il y en a un qui l'a occupé mais pas l'autre parce qu'il a dû partir. Et ben l'administration fiscale, elle arrive derrière, elle fait un carton.
Donc, mais c'est profondément injuste.
C'est peut-être injuste, mais c'est du concret. Moi, je le vois en cabinet. Voilà. Et ça les dérange pas, eux. Voilà. Donc, soyez prudents sur ces opérations qui sont des opérations majeures dans une vie et des enjeux fiscaux qui sont majeurs dans une vie. Et documentez. Même si vous êtes fâché, eh ben restez ensemble quelques mois, documentez ça, gardez vos relevés de consommation.
Non, juste quand même, Jean-Pascal, ça me pose une question parce que si par exemple effectivement il y en a un des deux qui reste quand même, ça compte pas ça ?
Ça compte pour lui, pas pour l'autre.
Oui, mais alors du coup s'ils y sont restés que un ou deux mois, la plus-value elle sera pas ouf.
Ah si, parce que la maison, si vous avez fait des travaux par exemple.
Ah ouais.
Ça peut être ouf, exactement.
J'adore Jean-Pascal quand il dit ouf. Non, mais ah oui, donc il y a des cas. Il y a quand même. Est-ce que vous en voyez, on ne donnera pas de nom, mais est-ce que vous voyez, par contre, des propriétaires un peu tentés de faire passer une résidence secondaire ou autre chose, ou un investissement?
Bien sûr que oui. Ouais. Bien sûr que oui, c'est pas pour rien qu'il y a des contrôles. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui abusent, et parfois avec succès. Mais ça retombe sur le dos de tous ceux qui sont de bonne foi.
Ouais, c'est ça en fait. Hein. Bah comme toujours. Voilà. C'est toujours
un exemple simple. Si vous avez emménagé, vous le prouvez avec une facture de déménageur. Mais bien souvent, les gens, ils ont déménagé tout seuls.
Ouais.
Alors il faut au moins garder la preuve qu'on a loué un utilitaire.
Appeler les déménageurs bretons.
Garder des preuves.
Ouais, mais c'est vrai que c'est complexe, quoi. Ou alors de regarder ses consommations d'énergie, parce qu'on imagine bien que quand c'est vide,
Les consommations. Si vous avez une résidence secondaire, et que cette résidence secondaire, je sais pas, il y a une piscine et du coup, elle consomme plus d'électricité, il faut être en mesure de le prouver, de justifier. Non, oui, ma résidence secondaire consomme plus d'électricité, mais il y a une raison. En fait, je vis bien dans ma résidence principale.
Ah, c'est chaud, quand même. Bah, et ça vous fait affaires à vous, Jean-Pascal, justement. Et puis d'un mot, on en profite vu qu'on parle de ça, qu'on a cette fameuse plateforme qu'adore Stéphane Descartier, Jérémy Bien Immobilier. Vous avez jusqu'au 30 juin, je crois, de mémoire, c'est ça, pour faire votre déclaration d'usage. C'est ça à peu près l'idée.
Oui. Oui, on a jusqu'au 30 juin pour déclarer tout changement ayant lieu entre le 2 janvier 2025 et le 1er janvier 2026.
Oui, parce que si ça n'a pas été, enfin si rien n'a changé,
il n'y a rien à faire.
Pas
et si tout a changé il y a 3 mois, il n'y a rien à faire.
Ouais. Bon. Mais là, faut faire gaffe aussi parce que si vous avez mal déclaré ce qu'il fallait déclarer en résidence principale et que vous avez l'intention de vendre, bon bref, on arrête.
Bien sûr. Il y a une incidence directe sur la résidence principale.
Ben non, mais quand même. Hein. Bon, là, on a parlé des propriétaires occupants a priori, donc des propriétaires de résidence principale. Et puis il y a toujours notre sujet des propriétaires bailleurs. Et alors Stéphane, il nous a sorti un bon truc. Il veut s'adresser aux propriétaires bailleurs généreux. Parce que le fisc, autant il aime bien aussi récupérer un peu d'argent, il aime bien la générosité des gens, mais pas si ça lui coûte de l'argent. Et en l'occurrence, vous nous dites attention, amis propriétaires bailleurs, à ne pas faire des loyers, non pas trop élevés, mais trop faibles.
Tout à fait. Alors, on est pris un peu dans un étau. Si on fait des loyers trop élevés dans les zones qui encadrent les loyers, on se fait retoquer. Mais à l'inverse, si on pratique des loyers trop bas, on se fait retoquer cette fois-ci, mais par les impôts. Donc, il y a des histoires qui sont connues. Il y a une histoire récente qui a fait l'objet de plusieurs articles. C'était un bailleur qui louait à son neveu. Donc, un studio dans le 15e, pas très loin d'ici, dont le marché pouvait se louer, c'est un grand studio, il pouvait se louer 1200 euros, et il le louait 400 euros.
Ah là, c'est son neveu, franchement, c'est abusé quand même.
Voilà. Ouais. Oui, mais...
Parce que là, on peut pas parler de générosité extrême quand c'est dans sa famille. Enfin voilà, on peut être généreux. Non, je dis pas, il y a des gens qui sont pas du tout généreux quand bien même avec leur famille, mais là, quand même, il y a une forme de donation déguisée, c'est à peu près ça l'idée.
Voilà. Oui, mais voilà, les impôts n'ont pas à en subir les conséquences. Hein. Il y a une autre histoire qui est connue, dont un ancien inspecteur des impôts racontait chez vos confrères de Légende le podcast. C'est une affaire qui est connue, c'est un gros propriétaire.
Moi, je la connaissais pas, je la trouve géniale cette histoire.
Un gros propriétaire à Paris qui avait plusieurs immeubles et qui louait par humanité, par altruisme, nettement moins cher que le marché. Il trouvait que les loyers étaient quand même trop élevés, souvent à des gens modestes, d'ailleurs, à des femmes seules, etc., avec enfants, et il louait globalement moitié moins cher que le marché. Et il s'est fait redresser très très fort, effectivement, comme s'il avait loué effectivement plein pot. Donc, parce qu'il y a cette notion, Jean-Pascal va sûrement le confirmer, de privation de recettes.
Oui, mais c'est ça, privation en fait, la générosité, c'est bien, mais pas si ça coûte à l'État.
Voilà, c'est-à-dire que vous avez le droit d'être généreux, vous avez le droit d'être humaniste, vous avez le droit d'être altruiste, mais le fisc n'a pas à en subir les conséquences. Donc voilà, donc votre générosité, en l'occurrence, peut vous coûter très cher. Alors particulièrement si vous passez, parce que si vous avez des tout petits loyers, vous avez vos charges, vous faites des travaux, pratiquer des déficits.
Ouais.
Donc non seulement vous n'avez pas de loyer fiscalisé, mais même vous faites des économies d'impôts avec vos déficits. Donc alors là,
ils vous détestent.
Effectivement, là, ils vous tombent
mais
dessus.
Mais j'imagine qu'il y a une limite à partir de laquelle le fisc s'interroge. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire des loyers un peu plus faibles que ceux du marché sans que ça les embête. Après, j'imagine qu'il y a quand même.
Oui, non, bien sûr. Non, mais si vous louez 15, 20%, même jusqu'à 30% moins cher que le marché, personne ne va venir vous chercher des noises.
On fait un petit mais clin d'œil si à mon louez, propriétaire d'ailleurs. Si vous voyez, voilà. 15, 20%, 30%, ça marche.
Mais si vous louez volontairement, effectivement, moitié moins cher que le marché, c'est une privation de recettes, privation volontaire de recettes, dont effectivement les impôts n'ont pas à subir les conséquences. Alors, un petit rappel, quand même, pour ceux qui veulent exprimer leur humanisme ou leur volonté d'aider peut-être des gens qui ont eu moins de chance qu'eux. Il y a des dispositifs qui vous permettent, vous les connaissez, Marie, peut-être les éditeurs, les spectateurs moins, il y a des dispositifs légaux qui permettent, pour le coup, d'avoir des avantages fiscaux, même en louant
moins cher
que le marché.
Bah, c'était un peu le principe du jambrin, hein, soit dit en passant.
Oui, bah, voilà, donc le jambrin, mais là, c'est 20% moins cher que le marché. Ouais. Mais là, pour louer beaucoup moins cher que le marché et tout en étant réglo, vous avez des dispositifs comme Locavantage, qui a été reconduit jusqu'en 2027, donc, et qui permet de louer moins 30 jusqu'à moins 50% de moins que le marché à des gens. Alors là, par contre, attention, à des gens très modeste, bien en dessous des plafonds Pinel, Jeanbrun, etc. Et donc, et en l'occurrence, ça vous permet, vous louez moins 30, moins 50 que le marché, et vous avez des réductions d'impôts qui font que ça revient à peu près au même. Votre fiscalité, par les réductions d'impôts, vous donne à peu près le même montant de loyer, mais comme vous êtes fiscalisé sur 70 ou 60 ou 50% du loyer, c'est intéressant en réalité. Et les formules les plus intéressantes avec Locavantage, c'est de passer par des associations type Solia, des associations donc qui vous...
Là, vous déléguez la gestion quelque part. Ouais.
Vous déléguez la gestion totalement, et c'est même encore mieux, puisqu'en fin de compte, c'est l'association qui est votre locataire. Donc, votre association, elle vous le verse le loyer le premier du mois qu'il y a un locataire qui n'en est pas, qui paye son loyer, qui ne le paye pas.
Il y a une forme de sécurité.
Il y a une forme de sécurité, et surtout, c'est zéro contrainte, zéro charge mentale. Et cerise sur le gâteau, au bout de 6 ans, c'est des engagements de 6 ans, au bout de 6 ans ou de 12 ans, l'association vous remet votre bien en parfait état, conformément à l'entrée, à l'état des lieux d'entrée.
Mais la question qu'on se posait, je me souviens, fut un temps, j'embrasse Pierre Autus, l'ancien directeur général de l'UNPI, qui bosse aujourd'hui avec plein d'autres associations de défense des propriétaires, notamment, c'était que pour sortir du dispositif, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que si, par exemple, ma générosité a une limite, et qu'à un moment donné, j'ai besoin de facturer un peu plus cher et donc d'avoir des loyers dignes de ceux du marché, il me semble que la bascule sur des loyers de marché était un peu plus compliquée. C'est
ça. Alors si vous êtes en zone encore bon, ça peut se discuter parce que vous étiez dans un cadre spécifique, mais si vous êtes en zone tendue, effectivement, on ne peut pas normalement déplafonner le loyer par rapport à un ancien locataire, etc.
Et il disait que c'était un peu la limite du dispositif, qui est hyper intéressant, mais où beaucoup de propriétaires bailleurs se disaient « Ah bah ouais, mais si je suis bloqué et qu'un jour j'ai besoin d'eux, je ne pourrai pas. » Donc voilà.
Oui, il y a cette petite sortie-là qui peut être problématique, mais bon. Bon, entre de vous à moi, j'ai vu des clients sortir de ce dispositif et puis se remettre au loyer normal sans avoir de difficultés particulières.
Mais c'est toujours intéressant d'en parler et de se dire, s'il y a des trous dans la raquette, notre projet de loi de finances, peut-être pourrait corriger 2-3 trucs, je ne sais pas. Sait-on jamais, ça pourrait être sympa. Vous en voyez beaucoup, vous, Jean-Pascal, des gens qui sont propriétaires bailleurs et qui disent, tiens, comment je pourrais faire pour faire des loyers plus faibles?
Alors, étonnamment, je ne vois pas beaucoup de gens généreux. Effectivement, des gens qui ont la problématique d'aider des membres de leur famille, notamment en les logeant gratuitement ou à faible coût, ça, j'en vois.
Mais c'est possible de faire ça ou pas?
Alors, c'est possible, mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut placer ça en pension alimentaire. Il faut placer ça en pension alimentaire et déduire à des enfants majeurs, par exemple, de ses impôts.
Alors attendez, refaites-le. Alors admettons que moi j'ai besoin, là on va parler du logement étudiant rapido, c'était pas prévu, mais admettons que j'ai besoin par exemple de loger mon enfant, je peux pas le loger gratuitement dans un bien immobilier que j'achète?
Vous pouvez verser une pension alimentaire à un enfant majeur.
D'accord.
Vous pouvez déduire cette pension alimentaire de vos impôts, et cette pension alimentaire elle peut se faire sous la forme d'une mise à disposition de logement.
D'accord.
Voilà.
Mais je ne peux pas faire ça simplement en disant j'ai acheté ce bien immobilier, c'est pour mon fils qui va faire ses études.
Alors s'il est dans le foyer fiscal, qu'il est étudiant, etc., là il n'y a pas de problème.
Bien sûr, mais si dans le foyer fiscal, on ne peut pas déduire.
Oui, tout à fait.
Là,
il essaie d'optimiser là en fait.
Ouais. Ah oui, c'est l'idée. Mais je vous confirme, on est en France, donc c'est compliqué, donc on ne peut pas faire simple.
Mais si on a encore nos enfants sur, s'il est toujours sur ma déclaration d'impôt, je peux acheter un bien immobilier, le loger gratos.
Oui, s'il est étudiant, etc. Oui, bien sûr. Oui, oui.
Non, j'ai eu un gros doute là, vous m'avez dit. Non, le mien a 11 ans encore, ça. Et l'autre, elle est trop petite.
Ah, ça arrive vite.
Bon,
pas,
ouais, je sais, ça me déprime, mais c'est pas le sujet de notre émission. Ils grandissent vite. Mais avant la rentrée étudiante, qu'est-ce qui va se passer? On va tous partir en vacances. Et alors, il y a toujours des sujets sur les vacances. Il nous reste 5 minutes, mais moi, il y a un sujet, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder les deux, mais le premier qui m'a beaucoup passionné de Jean-Pascal, il est génial. Il me dit, les vacances en famille, c'est aussi l'occasion de parler de sujets hyper importants, sujets légers, écrit Jean-Pascal, qui est l'optimisation successorale par donation d'immobilier.
Exactement.
Et ben voilà.
Exactement.
Sortie de plage.
Vous n'avez pas beaucoup d'occasion d'avoir tous vos héritiers autour de vous. Et c'est généralement le cas quand vous êtes en vacances dans la résidence familiale. Voilà. Vous avez vos petits-enfants avec vous, souvent, et parfois vos enfants aussi, voire vos enfants ensemble.
Ouais.
C'est à ce moment-là qu'il faut évoquer ces sujets-là. En plus, tout le monde est détendu, c'est le moment où ça peut le mieux se passer.
Oui, ou alors ça peut retendre.
Et c'est un vrai problème. Et on peut parler notamment de la résidence familiale, la résidence secondaire familiale qui généralement a de la valeur, ouais, tout en étant un gouffre financier. Donc la première question qu'il faut poser à vos enfants, c'est est-ce qu'ils veulent la garder à votre décès? Et s'ils veulent la garder, ça s'organise. Surtout que bien souvent, certains voudront la garder, d'autres non. Donc c'est le moment de préparer votre succession, c'est le moment de faire des donations, c'est le moment de faire un testament. Et c'est éventuellement le moment aussi... Pourquoi pas de prévoir la vente de la maison si les enfants ne veulent pas la garder, ouais, parce qu'il vaut bien mieux la vendre que de leur transmettre pour qu'ils s'en débrouillent et qu'ils la vendent eux-mêmes. C'est le moment aussi de réorganiser votre patrimoine s'ils veulent la garder et que vous ne voulez pas leur donner pour qu'il y ait du cash à votre succession, pour qu'ils puissent payer le droit de succession, qu'ils ne soient pas obligés de la vendre. Mm-hmm. Ça aussi, c'est essentiel. Effectivement, si vous voulez optimiser la transmission, il faut faire des donations anticipées, il faut faire des démembrements de propriété, il faut utiliser des donations de sommes d'argent. Il y a beaucoup, beaucoup de moyens de faire. Et si tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde ne veut pas la même somme, tout le monde n'en veut pas, à ce moment-là, on peut créer une société, une SCI, le plus simplement, pour transmettre les parts et les démembrer à qui on veut, faire des soultes et équilibrer tout ça. Souvent, en plus, vous aurez besoin d'un notaire qui soit dans la région, ouais, et c'est l'occasion d'aller le rencontrer.
Oh là là, les vacances que nous propose Jean-Marc. En famille, le sujet sympa, et puis si on allait rendre visite au notaire du coin, c'est ça l'idée en gros.
Oui, mais le jour de votre décès,
ouais, vous, mais vous avez raison.
Reconnaissant.
Non, mais vous avez parfaitement raison. Mais c'était juste la manière de l'amener qui me faisait rire. Bon, de manière plus légère, et pour qu'on termine sur ce sujet estival, il y a quand même un vrai sujet pour toutes celles et ceux qui louent. Alors, vous m'avez mis la villa en bord de mer, bon, ou en tout cas un logement en bord de mer là cet été qui vont les mettre à la location. Il y a deux, trois règles que vous vouliez rappeler, Jean-Pascal.
Oui, alors il faut faire attention. C'est un piège, c'est très tentant de louer une semaine ou deux pendant qu'on n'y est pas. Une maison qui est dans une zone estivale où il y a des vacanciers, c'est généralement assez lucratif, mais c'est fiscalisé et c'est de la location meublée. Il faut en être conscient, à partir du moment où vous louez une maison, vous basculez dans un régime micro-BIC en général, de loueur en meublé non professionnel. Ça veut dire qu'il faut le déclarer, ça veut dire qu'il faut avoir pris un SIRET. Et même si l'imposition ne va pas forcément être très élevée, ouais, ça va être de la paperasse.
Mais on est obligé, même si c'est juste quelques jours par an
Et oui, il n'y a pas de tolérance de ce
activité
point de vue-là.
Activité commerciale en plus, voilà. Donc effectivement, il n'y a pas de discussion.
Et en plus, on l'a déjà dit sur ce plateau, mais très attention, si jamais votre maison est détenue par une SCI, qui n'est pas l'impôt société, ne le faites pas. Tout simplement.
D'ailleurs, je ne mets pas à la location.
Vous ne mettez pas votre maison à la location, sinon vous allez basculer à l'impôt sur les sociétés et ça va être, pardonnez-moi l'expression, une boucherie fiscale. Ne faites pas ça. Voilà.
Ah oui, mais ça, c'est bon à savoir. Mais moi, je pensais qu'on avait quand même une forme de tolérance si c'est aller une semaine par an, deux semaines par an.
Il y a des tolérances pour des montants très faibles, de l'ordre de 700 euros, et c'est pour la résidence principale.
D'accord. D'accord, ok, bah bien, bon, pour savoir quand même, bon bah louez pas, hein. Enfin si, louez-moi, à moi, je ne suis pas votre fille en plus, donc le fisc ne viendra pas me chercher ni vous chercher.
Ah mais une maison de vacances, un appartement de vacances qui n'est pas en SCI, effectivement, il faut se déclarer comme loueur en meublé, c'est pas si monstrueux que ça, ça fait quand même un peu de paperasse.
Ouais, enfin si on loue, enfin, unique, c'est quand même maintenant ridicule quand on, si on loue une semaine,
oui,
ou deux par an,
oui,
enfin bon, pour les revenus,
oui,
que ça,
enfin,
représente.
C'est toujours pareil, hein. on va prendre une demi-heure pour le faire, il vaut mieux prendre une demi-heure pour le faire plutôt qu'un redressement qui va durer des mois ou des années avec grands frais d'avocat.
Parce que le fisc se penche réellement sur ce type de cas-là ? Oui. Ce que j'entends sur la, on a démarré par la question de la vente de résidence principale et d'exonération sur les plus-values, mais enfin, là, on parle quand même de quelque chose qui est assez pitchoune,
non? Il va, le fisc ne va pas venir vous chercher pour ça. Mais si vous avez un contrôle, il va vous accrocher là-dessus.
Dans le cas d'un contrôle, il faut voir.
J'aime bien comment il le dit tout bas. Il y en a qui s'y connaissent, visiblement. Ben voilà, messieurs, on a fait le tour. On se retrouvera à la rentrée, de toute façon, parce que je pense qu'on aura quand même pas mal de thématiques, puisque je vous rappelle, on retournera à partir du mois de septembre dans le cœur de notre débat budgétaire pour 2027. Et là, pour le coup, à chaque fois, il se passe deux, trois petites choses, donc ça pourrait être intéressant d'aborder le sujet quand même, je crois.
Avec plaisir.
Oui, hein. Oui. Notre duo de choc de la fiscalité. Merci à vous pour toute cette saison. J'ai hâte de vous retrouver à la saison prochaine. Je rappelle que vous êtes Jean-Pascal Michaud, avocat fiscaliste chez LMD Avocats, et Stéphane Descartier, évidemment, à la tête de SD Conseil et Formation. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode des Experts de l'Immo sur BFM Business.
Les Experts de l'Immo sur BFM Business.